Alors justement, oui, cinéma et le vidéographe célèbre ses 50 ans d'existence et c'est pourquoi je rejoins au bout du fil le vidéaste et cinéaste Luc Bourdon. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et le cinéaste Pierre Hébert. Bonjour, monsieur Hébert.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je très bien, oui.
Oui, en cette belle de belles célébrations qui s'annoncent. Alors, le vidéographe est né en 1971. Pouvez-vous nous raconter, je ne sais pas, Monsieur Bourdon, peut-être quelle était l'idée derrière la création de cet organisme?
C'est un organisme assez important au niveau tant québécois que canadien ou au niveau international. C'est-à-dire que c'est l'origine de ça remonte à l'Office national du film du Canada. Il y avait un groupe de producteurs, de réalisateurs, de créateurs, et surtout des hommes à cette époque-là, qui réfléchissaient sur la manière de pouvoir tourner autrement et d'impliquer autrement le public à travers les œuvres. Donc, il y avait une série de recherches qui étaient menées là, entre autres par M. Robert Forget, mais aussi des cinéastes comme Maurice Bubulian ou Claude Jutras et compagnie. Donc, c'était l'idée de faire de la rétroaction. Et l'Office national de Robert Forget en tête ont acheté les premières caméras vidéo au Canada. C'est un système noir et blanc, porte-à-pac qu'on appelait. C'est vraiment le début de la vidéo, alors que le mot n'existait même pas pour le grand public. Et de là, à travers un programme qui a fait beaucoup de bruit à l'intérieur de l'Office national, le programme Challenge for Change, Société Nouvelle, on se retrouve à la fin des années 60, début 70, et en 71, tous ces jeunes qui prennent la caméra et qui veulent militer avec la caméra ou convier le public à participer à une œuvre, ça fait beaucoup de bruit à l'interne et l'Office national décide que ce projet-là puisse se prendre, excusez-moi, je cherche mes mots, qui puisse avoir un lieu à lui seul sur la rue Saint-Denis. Et c'est là que le vidéographe tel qu'on le connaît actuellement, un groupuscule, un collectif qui, au cœur de son développement, ben, c'est la technologie vidéo. En 70, avec le noir et blanc, c'était un lieu qui était à l'époque ouvert 24 heures sur 24, où on pouvait s'y rendre pour visionner des œuvres déjà produites ou prendre une caméra, même pas la louer, de l'emprunter, de faire un bout de tournage, soit une manif ou une œuvre personnelle ou expérimentale, de revenir avec la caméra, de faire une copie de la bobine qui vous appartenait. Et on est déjà au début de la vidéo où c'est personnalisé, c'est léger, c'est portable, c'est économe.
Ah, c'est extraordinaire. Je pense que les caméras étaient peut-être un petit peu plus lourdes qu'elles le sont maintenant, par ailleurs.
Le porte-à-porte, pas vraiment. C'était un
Ah non?
système,
Ah, d'accord.
léger. C'était pas une caméra de télévision.
Ah, d'accord.
Sauf qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques. La définition de l'image n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. L'embobinement de tout ça déraillait souvent. Et la difficulté de faire un montage était réelle à l'époque. Et encore là, le vidéographe est un précurseur, puisque avec des gens comme David Rahn, ils ont inventé carrément les premiers modules de montage. On appelait ça vidéoscopique à l'époque. Donc, les premiers bancs de montage vidéo, entre autres, à Montréal, ont été inventés. Mais il y avait des têtes chercheuses un peu partout à travers le monde aussi à ce moment-là.
Ah, c'est magnifique de voir comment on a survécu et on continue d'être actif. Alors, dans le cadre justement de ces 50 ans d'existence, Vidéographe propose des événements spéciaux, dont une carte blanche à vous, Luc Bourdon, intitulée Les Vidéographes. Alors, pouvez-vous nous décrire, nous parler un peu plus de ce projet?
Moi, c'est ça, j'ai développé avec Karine Boulanger et Denis Vaillancourt, qui travaillent à la distribution et à la préservation puis la valorisation de la collection. On a tenté de choisir ou d'essayer de faire des programmes à partir de la base de dire, à travers ces 2300 œuvres-là, on va essayer de trouver les 50 œuvres, non pas marquantes, mais simplement qui soient emblématiques. Et d'essayer de faire des programmes. Alors, j'ai appelé ces programmes-là les vidéographes, parce que ben, c'est comme les cinématographes. On est du début jusqu'à aujourd'hui, à travers les festivals et aussi à travers un événement qui va se produire au mois de novembre, puisque c'est au mois de novembre prochain que véritablement les 50 ans vont être bouclés. Ça va faire 50 ans au mois de novembre prochain. Et à la Cinémathèque québécoise, il y aura une série de programmes, un cycle qui va s'appeler Les Vidéographes. Et donc, on est parti dans cette idée-là, mais les festivals, très vite, ont été intéressés à en diffuser une partie de ce travail qui était fait de simplement signer la part des vidéastes, des artistes vidéo, des vidéographes, de tous ces autrices et ces auteurs qui se démarquent. Il y en a 2300 œuvres.
Ah, mon Dieu!
Oui.
Impressionnant.
Oui, c'est une chose très importante. C'est pas juste du temps qui s'est passé. Il y a des œuvres qui sont accumulées et qui sont le reflet à la fois de l'évolution de la vidéo, à la fois de l'évolution de la société québécoise. C'est un ensemble qui a une valeur historique très importante.
Oui, il faut le souligner. Et justement, Monsieur Hébert, on annonce la création du prix Robert Forget, un prix qui sera remis d'ailleurs en novembre 2021 par un jury dont vous faites partie. Pourquoi ce prix a-t-il été créé?
Ben, ça a été créé en fait dans la foulée d'une volonté de vidéographe de se situer à la fois dans une situation de valorisation de son passé et de cette collection et d'ouverture vers l'avenir et d'un repositionnement quand même sur le plan technologique. Alors, la personnalité dans ce cadre-là, on a créé des programmes de membership honorifique pour les premiers artisans et artistes qui ont été actifs au début de Vidéographe, dont Robert Forget, évidemment, qui a joué un rôle très important. Alors, de souligner la personnalité et la vision de Robert Forget nous semble assez importante aujourd'hui parce que à la fois, ça valorise toute cette collection. Mais en même temps, Robert Forget avait été constamment à l'affût des nouveaux développements sur le plan de la technologie. À cette occasion-là, il avait tout de suite vu les possibilités que le porte-à-pac recelait. Plus tard, dans l'histoire de l'ONF, c'est lui qui a fondé la Ciné-Robotech, qui en a eu l'idée, qui l'a développée, où tous les films de l'Office du film numérisé étaient accessibles, sur la rue Saint-Denis d'ailleurs aussi. C'est un petit coin de la rue Saint-Denis qui a beaucoup d'importance.
Oui, il ne faut pas le négliger.
Robert Forget à la fois représentait l'origine de Vidéographe, mais en même temps un esprit, une vision dont on peut s'inspirer aujourd'hui.
Tout à fait, c'est très important de souligner cet apport-là. Depuis, par ailleurs, janvier dernier, dans le cadre de cette année-là, vous présentez déjà des œuvres de la collection. Est-ce que j'ai bien compris? Qu'en est-il?
Ben, il y a les programmes que Luc a constitués. Mm-hmm. Mais c'est sûr que toute la collection est disponible sur Vitech, qui est une plateforme numérique où on peut procéder par vidéo sur demande pour voir les films souhaités. Alors, oui, c'est en tout cas, les films sont disponibles à n'importe qui peut les voir, en fait, qui veut les voir.
C'est superbe. Est-ce qu'il y a d'autres événements spéciaux auxquels le public est convié?
En fait, le Vidéographe est actif depuis 50 ans. Mm-hmm. Est présente constamment. Il faut aller voir soit sur Facebook ou à travers son site web. Mais Vitech, qui est cette collection unique, là encore là, disponible pour tous et pour toutes. Il y a plein d'événementiels pour pouvoir vous passer à travers tous les événements que le Vidéographe produit chaque année. On a pas assez de temps en ce moment, mais dans le cadre 50e, ça va se passer à Cinémathèque au mois de novembre, mais du temps-là, il y a plusieurs festivals. Je pense au FIFA en ce moment qui va présenter les rendez-vous du cinéma québécois. Il y aura le Festival du Nouveau Cinéma et les Perséides. Enfin, il y a plusieurs festivals qui vont présenter un ou deux programmes soulignant justement cette singularité et cette richesse de cette collection-là.
Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Hébert?
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la pandémie nous a, a sérieusement limité ce qui était possible, évidemment. Là, heureusement, les projections publiques, même avec un auditoire limité, commencent à être possibles. C'est très heureux, mais jusqu'à il y a une semaine ou deux, là, la seule action que Vidéographe pouvait avoir était sur le avec son site, avec Vitec, en créant des événements sur Vitec. Ça a évidemment limité un peu la possibilité d'avoir des événements publics comme ça aurait été possible en temps normal.
Oui.
Mais on y revient présentement et comme Luc disait, il y a beaucoup de festivals qui sont intéressés à diffuser des programmes qui célèbrent le 50e anniversaire de Vidéographe.
Donc on sera attentif à bien regarder à travers ces différents programmes, entre autres le FIFA que vous mentionniez, et FIFA, aussi à retourner à Vitec et sur votre site web comme tel. Mais dites-moi, en 2021, est-ce que la vidéo est en bonne santé?
Luc a plus de perspectives historiques pour y répondre, mais ce que je peux dire, c'est que vous avez présenté Luc comme vidéaste et cinéaste. Vous auriez pu dire de moi cinéaste et vidéaste, parce que évidemment, on est dans une situation où toutes les filières différentes de l'image en mouvement ont convergé grâce à la technologie numérique. Alors, c'est sûr que la vidéo s'est transformée par rapport à la vidéo analogique, mais elle est devenue le lieu de toutes les pratiques de l'image en mouvement. Donc, la distinction qu'il y a dans ma propre carrière, où pendant très longtemps, me définissais comme cinéaste, maintenant,
vous n'avez pas le choix d'ajouter vidéaste.
De devenir un vidéaste dans la nouvelle façon. Alors, ma carrière était un... Ma carrière personnelle souligne le changement qui a eu lieu, disons, au tournant des années 2000, où le numérique a pris la place centrale.
Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a plus de...
Luc a mieux connu la vidéo analogique, l'histoire de la vidéo analogique que moi. Moi, j'ai été un témoin un peu distant de tout ça.
Oui.
Mais moi, je crois que... je pense que... Jamais j'ai pu penser qu'on en arriverait aujourd'hui à ce qu'on vit. C'est-à-dire, ce mot vidéo-là, qui est inconnu début 70, apparaît début 80. Moi, effectivement, je viens du cinéma et de la vidéo. Là où il y avait une guéguerre entre les médiums, il n'y en a plus.
Oui.
C'est-à-dire, là où les cinéastes boudaient la vidéo, où les vidéastes boudaient le cinéma, ça n'existe plus parce qu'on est tous, on fait partie tous de la même famille aujourd'hui. Et ce monde numérique qui peut paraître envahissant parfois, ben, la vidéo est quand même terriblement importante parce que c'est un outil de démocratisation des outils de communication fondamentaux.
Tout à fait. Ben écoutez, je vous souhaite un beau 50e anniversaire en espérant que on pourra fréquenter les salles et aller voir justement les trésors du Vidéographe, mais à travers aussi les différents festivals dont vous nous avez parlé. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Bourdon et M. Hébert, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.
Au revoir.
Au revoir.